Et donc je lirai 1 roi chapitre 14 à partir du verset 21. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom, donc Jérusalem. Le nom de sa mère était Naama l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils excitèrent sa jalousie, plus que ne l'avait jamais fait leur père par les péchés qu'ils commettaient. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des stèles et des poteaux d'Akéra sur toute colline élevée et sous tout arbre verdoyant. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Verset 25, du chapitre 14, de 1 roi. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers de bronze et les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis ils les rapportaient dans la chambre des coureurs. Le reste des actes de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Il y eut toujours la guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et fut enseveli avec ses pères dans la cité de David. Le nom de sa mère était Naama, l'Ammonite. Son fils Abijam régna à sa place. Donc 1 roi 15 maintenant, je continue. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Maaka, fille d'Abishalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui assura une lignée royale à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était pas écarté de tout ce qu'il lui avait commandé pendant tous les jours de sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. Il y eut la guerre entre Roboam et Jéroboam, tant que vécut Roboam. Le reste des actes d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Il y eut la guerre entre Abijam et Jéroboam, donc entre le roi du nord et le roi du sud. Donc verset 8, chapitre 15, « Abijam se coucha avec ses pères et on l'ensevelit dans la cité de David. Son fils Asa régna à sa place. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna comme roi de Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Maaka, fille d'Abishalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David et son père. Il fit disparaître du pays les prostituées et il enleva toutes les idoles que ses pères avaient faites. Il enleva même à sa mère Maaka la dignité de reine-mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Akéra. Asa abattit son idole et la brûla dans le ravin du Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent pas, quoique le cœur d'Asa fût entièrement à l'Éternel pendant toute sa vie. Il apporta dans la maison de l'Éternel ce qu'avait consacré son père et ce qu'il avait consacré lui-même, de l'argent, de l'or et des objets divers. Il y eut la guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda. Il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il les mit entre les mains de ses serviteurs. Puis le roi Asa les envoya vers Ben-Hadad, fils de Tibrimmon, le fils de Hézion, roi de Syrie qui habitait à Damas, pour lui dire « Qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici que je t'envoie de l'argent et de l'or en présent. » Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de ses soldats contre les villes d'Israël et il bâtit Lyon, Dan, Abel-Met-Maaka, Bet-Maaka, tout Kinéroth, en plus de tout le pays de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et resta à Tirza. Alors le roi Asa fit appel à tout Juda, sans exempter personne, pour emporter les pierres et le bois que Baécha employait à la construction. Et le roi Asa s'en servit pour bâtir Geba de Benjamin et Mitzba. Le reste de tous les actes d'Asa, toute sa vaillance et tout ce qu'il a fait, et les villes qu'il a bâties, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda, Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères et il fut enseveli avec ses pères dans la cité de David, son père. Son fils, Josaphat, régna à sa place. Voilà donc le chapitre qui nous intéresse, aujourd'hui, ce n'est pas le seul. Donc, concernant le royaume du Sud à Jérusalem, avec donc successivement trois rois de père en fils, Roboam, puis son fils Abijam, puis son fils Asa. Donc on est dans le royaume du Sud à Jérusalem. Ce n'est qu'après, au chapitre suivant, qu'on reviendra dans le royaume du Nord. On est dans le royaume du Sud. Alors voyons ces trois rois, comment ils ont régné. Le titre que j'ai donné à mon message, c'est que nous sommes tous des modèles et nous sommes tous des imitateurs. Nous sommes tous, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous des modèles et tous des imitateurs. Et ma vérité qui m'est apparue dans ce passage, c'est que l'homme devient comme le modèle qu'il suit. Soit ses idoles, soit Dieu. Et il récolte ce qu'il sème, mais Dieu reste fidèle à son alliance. L'homme devient comme le modèle qu'il suit, Dieu ou les idoles, et récolte ce qu'il sème, mais Dieu reste fidèle à son alliance. Nous avons tous donc des modèles, bons ou mauvais, hein. Qui dit modèle ne veut pas forcément dire bon. Nous avons tous des modèles, bons ou mauvais, que nous suivons. Ce sont nos modèles, nous les suivons. Ça peut être des personnes en position d'autorité, ça peut être des personnes que nous admirons, des chanteurs, ça peut être son propre cœur. Nous avons tous donc des modèles, et nous sommes tous des modèles pour autrui, mais Dieu reste fidèle à son alliance. C'est ce qui ressort de ce texte, et je vais donc articuler mon message en quatre points. Le premier, c'est que nous allons voir ceux qui sont dans l'alliance divine, et qui imitent les mauvais modèles, parce qu'il y en a, il y en a eu. Ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu, mais qui imitent les mauvais modèles. Deuxièmement, nous verrons ceux qui sont dans l'alliance divine et qui imitent les bons modèles. Troisièmement, nous verrons, ça c'est pour le texte d'après, ceux qui sortent de l'alliance divine et qui suivent les mauvais modèles. Et quatrièmement, nous verrons ce que c'est que de rentrer dans la nouvelle alliance pour avoir le meilleur père qui soit et le meilleur modèle à imiter. Voyons premièrement donc ceux qui sont dans... Alors il s'agit de l'ancienne alliance, hein, l'alliance divine que Dieu avait passée avec David. Ceux qui sont dans cette alliance, mais qui malgré tout imitent les mauvais modèles. Parce que c'est pas parce qu'on est dans l'alliance avec Dieu que automatiquement, tout va aller automatiquement. Non. Juda, le petit royaume de Juda au sud, donc le royaume du sud, il avait le privilège d'avoir Jérusalem pour capitale. Et un roi qui descendait de David. Et malgré cela, eh bien, l'idolâtrie a aussi atteint le royaume du Sud, parce que l'idolâtrie avait atteint Salomon. Et donc l'idolâtrie a atteint tout le royaume du Sud. Elle a atteint Salomon et elle a atteint son fils qui s'appelait Roboam. Roboam qui, nous est-il dit, fit pire que ses pères, verset 22. Donc ça ne s'arrange pas dans le royaume du Sud. La raison en est qu'ils imitèrent eh bien, les mauvais modèles, en l'occurrence les nations païennes qui avaient aux alentours, verset 24. Ils avaient des mauvais modèles, ils ont voulu faire comme les voisins qui ne connaissaient pas Dieu. Alors les Israélites donc, du royaume du Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont bâtis des hauts lieux, c'est-à-dire des sanctuaires idolâtres dans le pays de Juda, et il nous est dit qui lui-même des prostituées sacrées. Donc pour le culte idolâtre, qui était soit homme, soit femme, ce qui est une abomination dans ce royaume du Sud où il y a Jérusalem. Donc voilà Roboam, le fils de Salomon. Eh bien lui, il a eu comme mauvais modèle les nations alentours qu'il a voulu imiter, mais il a eu aussi comme mauvais modèle ses parents, Salomon et les femmes qu'il a eues. Et sa mère, elle est nommée ici, Naama. Parce que sa mère, elle est citée deux fois dans ce passage. Vous avez remarqué, elle est citée au verset 21 et au verset 31. C'est-à-dire au début de son règne et à la fin de son règne. Donc n'en doutons pas, la mère de Roboam a eu aussi son rôle à jouer dans son mauvais cheminement. Puisque Naama était une ammonite, c'est-à-dire une idolâtre. Salomon avait épousé beaucoup de femmes idolâtres, qui étaient donc païennes. Et ce sont ces femmes qui ont fait tomber Salomon. Et on voit que ça continue, le fils de Salomon, Roboam, lui-même tombé dans l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est ce que nous montrent ces passages, l'idolâtrie a toujours des conséquences. Et elle sera toujours jugée. C'est comme une brèche dans laquelle l'ennemi peut s'infiltrer. Voilà, retenez ça. L'idolâtrie, c'est-à-dire mettre quelqu'un d'autre que Dieu à la première place, c'est ouvrir une brèche à ce qui est contre Dieu. C'est laisser l'ennemi s'infiltrer. Et dans ce texte-là, on a vu qu'effectivement, il y a eu des conséquences. On récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer ? Après 5 ans de règne de Roboam, eh bien voilà que le roi d'Égypte vient, Shishak, il vient voler les trésors en or du temple et de la maison royale. Et parmi ces trésors, il y avait quoi ? Des boucliers. Des boucliers en or. Tous les boucliers. Pourquoi ce détail ? Pourquoi les boucliers ? Eh bien, un bouclier, à quoi ça sert ? À se protéger, n'est-ce pas ? À se protéger. Eh bien, une fois volé, ces boucliers ne servaient plus à rien. Alors, c'est qui ? Ironiquement, Roboam a cherché. Roboam, il avait. Son père Salomon avait fait alliance avec le roi d'Égypte en épousant la fille de Pharaon. Et ça va se retourner contre lui. Ça va se retourner contre lui, puisque certainement que Shishak, le roi d'Égypte, a eu connaissance du schisme dans le royaume d'Israël, qui a donné royaume du Nord et royaume du Sud. Il a dû se dire, mais Israël est plus faible maintenant qu'il est affaibli. Et il en a profité, il est monté donc contre Jérusalem, et il a volé les trésors de la maison, du temple et de la maison du roi. Et parmi ces trésors, il y avait des boucliers. Un bouclier, c'est censé nous protéger. Mais là, une fois volé, ça ne sert plus à rien. Il s'était fait... Roboam n'a pas veillé. Il n'a pas veillé. Il n'a pas veillé à cause de son idolâtrie. Il s'est laissé endormir. Et vous avez remarqué aussi, il y a de l'ironie là-dedans. Il s'est fait voler les boucliers. Il va les remplacer par des boucliers de bronze. Et ces boucliers de bronze, à chaque fois qu'il vient à la maison de l'Éternel, il va les amener, et quand il repart, il les emporte pour ne pas se les faire voler. C'est lui qui maintenant cherche à protéger le bouclier, alors qu'un bouclier sert à nous protéger. Parce qu'il n'a pas mis sa confiance en Dieu, il va chercher à protéger ses boucliers, alors qu'un bouclier est là pour nous protéger, par manque de foi. Parce qu'il a placé sa foi, sa confiance, dans un roi païen. Donc verset 27-28, il ramenait les boucliers en bronze chaque fois qu'il se rendait au temple. Il y a donc une leçon déjà, non seulement pour Israël, mais aussi pour nous. Comme quoi chercher sa protection ailleurs qu'en Dieu. Comment ? Eh bien, en imitant les nations païennes alentour. Quelle est la conséquence ? C'est qu'à terme, ces moyens de protection soit finissent par se retourner contre nous, comme ça a été le cas pour Roboam. Le roi d'Égypte s'est retourné contre Roboam. Son père avait fait alliance avec le roi d'Égypte et le roi d'Égypte s'est retourné contre Roboam. Donc ces moyens de protection complètement illusoires, eh bien, finissent par se retourner contre nous, soit deviennent inefficaces au point que c'est à nous de les protéger. Bien sûr, on pense à celui qui va placer sa confiance dans ses richesses. Il va accumuler des richesses pour assurer ses arrières, il va accumuler des richesses, mais ça peut fondre du jour au lendemain. Le problème, c'est lorsqu'on cherche sa protection ailleurs qu'en Dieu. Ces moyens finissent soit par se retourner contre nous, soit par donner beaucoup de soucis, parce qu'on veut les protéger, alors qu'on comptait sur eux pour nous protéger. Avoir beaucoup de richesses, on le sait bien, ça engendre beaucoup de soucis, par peur de se les faire voler. Roboam n'avait pas veillé. Il s'est laissé endormir dans son idolâtrie. C'est un avertissement pour nous à veiller. À ne pas nous endormir sous peine de laisser notre cœur être envahi par toutes sortes d'idoles qui ne vendent qu'à prendre la place de Dieu. Des idoles qui volent nos ressources, qui volent notre énergie, qui volent notre temps. On n'a plus de temps pour Dieu, ni pour l'Église. On n'a plus de temps pour sa famille qu'on délaisse. Résultat de l'idolâtrie. Roboam, donc, il a donc été influencé par qui ? Eh bien, par l'idolâtrie de son père et de sa mère. Son père Salomon et de sa mère Naama, une païenne. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lui-même, Roboam, va influencer son fils Abijam. Ça va aussi retomber sur son fils. Après 17 ans de règne, eh bien, son fils Abijam va régner à sa place. Et Abijam ne va pas mettre longtemps à pécher des mêmes péchés d'idolâtrie. Chapitre 15, verset 1, je le relis. Voyez, 15, verset 1, je lis le 15, verset 3. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. On peut dire tel père, tel fils, ça se répète. Ça se répète. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Non, ce n'est pas une fatalité parce que le troisième roi, lui, il n'a pas fait comme son père, ni son grand-père. Autant Abijam, il a suivi le modèle de son père Roboam, eh bien, c'est-à-dire qu'au lieu de suivre la voie de David, David, il avait un corps entier pour Dieu. Eh bien, autant son fils Asa ne va pas suivre le modèle de son père. C'est ce que mon deuxième point, chapitre 15, verset 2, Abijam, le roi idolâtre comme son père Roboam, mourra, et c'est son fils qui va lui succéder. Et contrairement à son père Roboam, lui, il va choisir comme modèle David, avec qui Dieu avait fait alliance. Donc mon deuxième point, ceux qui sont dans l'alliance divine et qui imitent le bon modèle d'être dans la bonne alliance, dans l'alliance avec Dieu, choisir d'imiter le bon modèle. Donc voilà, Asa règne sur Juda pendant 41 ans, hein, quand même. Et chapitre 15, verset 11 nous dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est un des rares bons rois mentionnés pour le royaume du Sud, pour Juda, le royaume de Juda. C'était un réformateur, il a osé, hein. Il ôta du pays les prostituées sacrées. Il a détruit toutes les idoles que ses pères avaient faites, verset 12. Y compris l'idole de sa mère, Maaka. Et très souvent, pour les rois du royaume du Sud, les mères sont mentionnées. Très souvent, un tel, sa mère était. Très souvent, les mamans sont mentionnées dans la généalogie des rois de Juda. Maaka était aussi un mauvais modèle. Autant Naama, la mère de son père, Roboam, la femme de son père, pardon. Non, la mère de son père était un mauvais modèle. Naama était la femme de Salomon. Maaka, la mère de Asa, était aussi un mauvais modèle. Donc Asa, il a eu un mauvais père et une mauvaise mère. Mais Asa ne l'imitera pas forcément. Il n'y a pas de fatalité. Et là, on est encore dans l'ancienne alliance, hein. Donc c'est possible. C'est possible de ne pas reproduire les mêmes travers de ses parents. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas non plus de favoritisme. Parce que c'était quand même la mère du roi, la reine-mère. Asa, il va oser balayer l'idole que sa mère avait faite. Il a eu le courage de destituer la reine-mère. Et il faut du courage pour ça. Il en a eu. Parce qu'il a placé Dieu en premier. Et là, on peut déjà y voir une application des paroles de Jésus en Matthieu 10, 37, qui dit ceci. Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça aurait pu faire peur quand même, destituer sa propre mère. Non. Asa, il a enlevé l'idole de sa mère. Et il était convaincu que c'était la bonne chose à faire, de mettre Dieu en premier. C'est pas facile de prendre position dans sa propre famille, face à sa propre famille, lorsqu'elle n'est pas chrétienne. Certains en savent quelque chose, il faut même parfois du courage de prendre position, n'est-ce pas? De sans rentrer dans la polémique pour autant qu'on puisse, mais en tout cas rester, vouloir affirmer sa foi comme l'ont fait tant de chrétiens persécutés. Asa donc n'a pas suivi les mauvais exemples de son père, ni de son grand-père Salomon, ni de sa mère, Maaka. Donc c'est possible. Alors, peut-être certains d'entre vous ont grandi dans des familles chrétiennes, et alors là c'est un privilège, et vraiment, appréciez-le. si vous avez grandi dans une famille chrétienne, si vous avez des parents chrétiens ou si vous avez des enfants chrétiens, je ne sais pas si vous appréciez ce privilège parce que vous pouvez partager librement la parole de Dieu, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui ont une famille non chrétienne. Ce n'est pas toujours facile. Alors ne vous en privez pas, transmettez la parole de Dieu, transmettez-la à vos enfants. Témoignez, enfin, si vos parents les ont transmis. Parce que pourquoi vous êtes, nous sommes appelés à être des modèles. Être des modèles. Donc ne vous en privez pas. Donc Asa, un bon roi, un rare bon roi dans le royaume du Sud. Mais il était bon, mais il n'était pas parfait. Il y aura une ombre au tableau d'Asa. Sa fin de règne. Sa fin de règne, elle sera triste en comparaison à son début de règne. Et voyons comment et pourquoi. En parallèle, donc, il y avait le roi Baécha qui régnait au nord, dans le royaume du nord. Donc il y avait Baécha et Asa qui régnaient en parallèle. Baécha, il nous a dit, vous avez remarqué souvent, les deux rois, roi du nord et roi du sud, étaient en guerre souvent. Ça a duré longtemps. Ce n'était pas des guerres. Dieu a empêché qu'ils s'entretuent complètement, mais il y avait quand même des guerres qui ont duré. Baécha, c'était le roi d'Israël. Il était en guerre contre le roi Asa. Et donc, Baécha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu construire une ville tout près de Jérusalem, sauf qu'on était dans le royaume du Nord. Donc il y avait très peu de kilomètres entre la ville que Baécha a voulu construire et Jérusalem. Et donc Jérusalem, le roi Asa a senti que Jérusalem était menacée. Une ville fortifiée dans le royaume du Nord, Jérusalem était menacée. Que va faire Asa? Au lieu de chercher du secours auprès de l'Éternel à Jérusalem, eh bien là, c'est étonnant, il va faire alliance encore avec un roi païen, cette fois c'était le roi de Syrie, Ben-Hadad. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ça ressemble un peu à... Enfin, c'est pas la même façon de faire. Parce que Roboam s'est fait voler les trésors. Lui, Asa, il va offrir au roi de Syrie, Ben-Hadad, les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et parmi ces trésors, vous avez, regardez bien le verset 15, il y a des choses que lui-même avait amenées au trésor, que lui-même avait données et consacrées à l'Éternel. Il va reprendre ce qu'il avait donné à l'Éternel. Je relis le verset 15. Il apporta dans la maison de l'Éternel ce qu'avait consacré son père et ce qu'il avait consacré lui-même de l'argent, de l'or et des objets divers. Et ensuite, un peu plus loin, verset 18, Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il les mit entre les mains de ses serviteurs. Puis le roi Asa les envoya vers Ben-Hadad. Ici, on a une application qui, pour nous, notre Église, pour chacun d'entre nous, c'est de ne pas reprendre ce que nous avons consacré à Dieu. C'est de ne pas reprendre ce que nous avons donné et consacré à Dieu pour le donner à des non-chrétiens, pour s'attirer leur faveur, pour se sentir plus fort. N'oublions pas, c'est pas dans la Bible, mais en tout cas c'est bien connu de tous, donner c'est donner, reprendre c'est voler. On ne passe plus autant qu'avant à lire sa Bible et à prier. On est plus tout feu tout flamme comme au début. Mais on passe plus de temps maintenant à regarder la télévision ou Internet. Ou encore maintenant, autant avant on aimait bien se réunir tous ensemble, autant maintenant on passe tellement de temps avec ses amis qu'on en néglige notre vie d'église. Ou encore on passe tellement de temps à son travail qu'on n'en a plus pour sa famille, qu'on n'en a plus pour son conjoint. Alors on peut se donner bonne conscience, oui, mais je veux avoir plus d'argent. N'empêche qu'on néglige les siens. Et ça, c'est faire passer Dieu qui nous a donné notre famille après. Éphésiens 5, verset 16 nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Alors, il s'agit du temps. Mais pas seulement du temps, il y a aussi nos ressources, notre argent. On ne donne plus pour l'œuvre de Dieu. N'oublions pas que c'est Dieu qui nous a donné le premier. Il nous a donné notre temps. Il nous donne nos ressources. Tout vient de lui. Nous avons besoin de nous le rappeler. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est étonnant de comparer Asa et Roboam avec les trésors de la maison de l'Éternel. Au final, le résultat est le même pour Asa que pour Roboam. Tous les deux ont cherché leur protection auprès d'un roi païen. Et les deux vont perdre les trésors du temple. Il y a une différence. Le premier, lui, il s'est fait voler parce qu'à cause de son idolâtrie. Le deuxième, lui, eh bien, il les a donnés à un roi païen à cause de son manque de foi. Il a placé sa confiance dans un roi païen. Attention à ne pas nous faire voler ni à brader ce que Christ nous a donné ici-bas au prix de sa vie. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son Église. Il nous a donné sa joie. Il nous a donné sa paix. Il nous a donné son amour. Il nous donne son pardon. Attention à ne pas nous faire brader, à ne pas brader ce qu'il nous a donné. On récolte ce qu'on sème. Et là, vous voyez, il y a ce détail dans la fin de règne du roi Asa, il est malade des pieds. On peut l'expliquer, peut-être parce qu'il a placé sa confiance, lui un roi, il a placé sa confiance dans un roi païen, plutôt qu'en Dieu, pour être délivré. En tout cas, il n'était pas parfait Asa, mais c'était un bon roi en comparaison aux autres. Il y avait une autre ombre au tableau de Asa, c'était que il nous a dit qu'Asa il avait un cœur pour Dieu comme David avait un cœur pour Dieu. Et pour autant, il a fait preuve de laxisme, puisqu'il a fait disparaître les idoles, mais il a laissé les hauts lieux. Les hauts lieux, c'était des sanctuaires idolâtres et c'était des pierres d'achoppement pour le peuple. Les gens qui passaient devant ces hauts lieux, eh bien, ils étaient tentés d'offrir des sacrifices aux idoles. Et donc là, il a fait preuve de laxisme. C'est une autre ombre au tableau de son règne. Alors voilà, j'ai vu les trois rois du royaume du sud, Roboam, puis Abijam, puis Asa, donc de père en fils. On revient maintenant 40 ans en arrière et on va se placer maintenant sur ce qui s'est passé dans le royaume du nord. Royaume donc d'Israël, hein. Israël ça désigne le royaume du nord. Alors que Asa règne sur Juda, le règne d'Asa a été long, hein. Il a régné 41 ans. Ces rois du nord, nous ne l'oublions pas, eux ils sont sortis de l'alliance. Ils sont sortis de l'alliance de David avec Dieu, de l'alliance davidique, hein. Au moment où le royaume a eu le schisme, la coupure entre le nord et le sud. Et donc, ils sont sortis de l'alliance. Pourquoi? Parce que Jéroboam, le premier roi du royaume du Nord, eh bien, il a initié de sa propre initiative un culte idolâtre. Donc, ils sont sortis de cette alliance. Mon troisième point, voyons ceux qui sortent de l'alliance divine. Pourquoi? Parce qu'ils suivent les mauvais modèles. Donc, je vous propose de poursuivre notre lecture. On en est au chapitre 15 de 1 roi. 1 roi, chapitre 15, à partir du verset 25. Là aussi, restons concentrés parce que le texte est assez long. Alors, 1 roi 15, 25. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et marcha dans la voie de son père en se livrant au péché qu'il avait fait commettre à Israël. Baécha, fils d'Achija, de la maison d'Issacar, conspira contre lui. Et Baécha le frappa à Gibbéthon, qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibbéthon. Baécha le fit mourir la troisième année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il ne laissa échapper personne chez Jéroboam jusqu'à ce qu'il ait tout massacré, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de son serviteur Achija de Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël en irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actes de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Il y eut la guerre entre Asa, donc du royaume du sud, et Baécha, roi du royaume du nord, donc qui a pris le règne. Il eut la guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. La troisième année d'Asa, roi de Juda, Baïcha, fils d'Achija, régna sur tout Israël à Tirza. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et marcha dans la voie de Jéroboam en se livrant au péché qu'il avait fait commettre à Israël. Chapitre 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baïcha en ces mots. Parce que je t'ai élevé de la poussière, que je t'ai établi conducteur de mon peuple d'Israël, mais que tu as marché dans la voie de Jéroboam, et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour mériter par leur péché, je vais balayer Baïcha et sa maison, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Baïcha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel. Le reste des actes de Baïcha, ce qu'il a fait et sa vaillance, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Baïcha se coucha avec ses pères et fut enseveli à Tirza. Et là, son fils régna à sa place. La parole de l'Éternel avait même été adressée par l'intermédiaire du prophète Jéhu, fils de Hanani, à Baïcha et à sa maison, à cause de tout ce qu'il avait fait de mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter par l'œuvre de ses mains, et pour devenir semblable à la maison de Jéroboam, et aussi parce qu'il avait frappé cette maison. La 26e année d'Asa, roi de Juda, Éla, fils de Baïcha, régna sur Israël à Tirza, il régna 2 ans. Son serviteur, Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Éla était à Tirza, buvant comme un ivrogne dans la maison d'Artsa, préposée à la maison du roi à Tirza. Zimri entra, le frappa et le fit mourir la 27e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Dès qu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baïcha. Il n'en laissa pas la moindre personne, ni proche parent, ni ami. Zimri massacra toute la maison de Baïcha, selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baïcha, par l'intermédiaire du prophète Jéhu, à cause de tous les péchés que Baïcha et son fils Éla avaient commis, et qu'ils avaient fait commettre à Israël pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actes d'Éla et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Verset 15. La 27e année d'Asa, roi de Juda. Zimri régna 7 jours à Tirza. Or, le peuple campait devant Gibbéthon qui appartenait aux Philistins. Le peuple qui campait entendit qu'on disait « Zimri a conspiré et il a même tué le roi ». Et ce jour-là, tout Israël établit dans le camp pour roi d'Israël Omri, chef de l'armée. Omri et tout Israël avec lui partirent de Gibbéthon et assiégèrent Tirza. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le donjon du palais royal et brûla sur lui le palais royal. Il mourut à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant au péché que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actes de Zimri et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors, le peuple d'Israël se divisa en 2 parties. Une moitié du peuple s'était ralliée à Tibni, fils de Ginat, pour le faire roi, et l'autre moitié à Omri. Ceux du peuple qui s'étaient ralliés à Omri l'emportèrent sur ceux qui étaient ralliés à Tibni, fils de Ginat. Tibni mourut et Omri régna. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirza, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit une ville sur la montagne et donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, et d'après le nom de Shemer, propriétaire de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché qu'il avait fait commettre à Israël pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs vaines idoles. Le reste des actes d'Omri, ce qu'il a fait, et la vaillance dont il fit preuve, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Omri se coucha avec ses pères et fut enseveli à Samarie. Akab, son fils, régna à sa place. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Donc, en parallèle au roi du royaume du sud, donc dans le royaume du nord, on a eu 5 rois qui ont régné contre 3 au royaume du sud. 5 rois au total, depuis Jéroboam, hein, si on compte, il y a eu Jéroboam, donc le premier roi du royaume du nord, puis Baasha, qui n'était pas son fils, puis Éla, puis Zimri, puis Omri. Ils ont donc régné pendant que le règne le plus long du roi du royaume du sud, qui était Asa, qui était beaucoup plus stable, qui lui a pendant 40 ans, qui a régné 41 ans. Donc la différence majeure entre les deux royaumes, c'est que le premier roi du royaume du nord, qui était Jéroboam, il s'était séparé de l'alliance davidique, l'alliance de Dieu avec David, pour créer sa propre religion idolâtre. Asa, au sud, il avait choisi de suivre le bon modèle, David. Au nord, vous avez remarqué le refrain, c'est toujours Jéroboam qui revient. Ils ont péché dans les péchés de Jéroboam. Quel contraste, hein, entre Asa qui a suivi le bon modèle au sud et au nord les rois qui ont suivi le mauvais modèle de Jéroboam. Donc on a ce refrain avec cette triste et funeste référence qui est à la fois un triste et funeste modèle, Jéroboam, qui commence avec Nadab, le fils de Jéroboam, au verset 15, verset 26. Donc Nadab, le fils de Jéroboam, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et marcha dans la voie de son père en se livrant au péché qu'il avait fait commettre à Israël. Ce refrain, donc, d'imiter le péché de Jéroboam, on le retrouve pour Baasha, qui a conspiré contre Nadab. On le retrouve pour le fils de Baasha qui s'appelait Éla, donc au chapitre 15, verset 34, et 16, verset 13. On le retrouve pour Zimri, le conspirateur, chapitre 16, verset 19, et aussi pour Omri, le dernier roi de cette période, chapitre 16, verset 26. Tous, ils ont suivi ce mauvais roi, ils ont pris comme mauvais exemple Jéroboam. Et ce qui était grave, c'est que ces rois n'ont pas seulement péché eux-mêmes par les péchés de Jéroboam, mais ce qui était grave, c'est qu'ils ont fait pécher tout le peuple. Tout le peuple d'Israël. Pareil qu'en Juda au sud, avec les hauts lieux. Ils ont été des pierres d'achoppement pour le peuple, et ça, c'est grave. Pourquoi ? Parce que pousser des personnes à désobéir est aussi grave que de désobéir soi-même. Surtout quand on connaît la parole de Dieu. Alors cela aura plusieurs conséquences. L'homme récolte ce qu'il sème, s'il ne se repent pas. Nadab, le fils de Jéroboam, eh bien, la parole de Dieu va s'accomplir, il aura le sort terrible annoncé par le prophète Achija, vous vous rappelez, sur son père Jéroboam et sa maison, c'était au chapitre 14, verset 10 et verset 14. La prophétie va s'accomplir. Pourquoi ? Eh bien, Nadab, fils de Jéroboam, eh bien, Baasha va conspirer contre lui, il va le tuer, et il nous a dit, non seulement lui, mais tous les survivants de la maison de Jéroboam. Et Dieu l'avait annoncé. Donc, versets 27 à 29. Ça s'accomplit. Mais là encore, on a l'impression que l'histoire se répète. Parce que Baasha, il a été l'instrument de Dieu, de jugement de Dieu, pour juger la maison de Jéroboam. Baasha, il va tomber lui-même dans les mêmes péchés que Jéroboam. Et alors, même péché, même chemin, même issue, même jugement. On a exactement le même sort pour la maison de Baasha que pour la maison de Jéroboam. On récolte ce qu'on sème. Baasha a conspiré contre Nadab, le fils de Jéroboam. Vous suivez ? Il y a beaucoup de noms, hein. Baasha a conspiré contre Nadab, le fils de Jéroboam. Eh bien, quelqu'un d'autre va conspirer contre Baasha. Ça va se retourner contre lui. Zimri, il va conspirer, pardon, contre le fils de Baasha, contre Éla. Éla, le fils de Baasha, il est assassiné par son serviteur Zimri, qui était le chef de la moitié des chars, donc un militaire. Baasha, il n'a pas eu le temps de se réveiller, de cuver son vin, il était ivre quand la mort l'a atteint. Versets 9 à 10. Puis le jugement annoncé par le prophète Jéhu sur la maison de Baïcha, cette fois, en 16 verset 4, sera mot pour mot le même jugement que celui qu'avait annoncé le prophète Achija sur la maison de Jéroboam. C'était au chapitre 14, verset 11. Pour Baïcha et sa maison, je le relis au 16, verset 4, c'est exactement mot pour mot, sauf que là, il ne s'agit pas de la maison de Jéroboam, il s'agit de la maison de Baïcha. 16, verset 4, « Celui de la maison de Baïcha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel. » Si vous prenez 14, verset 11, c'est exactement le même jugement. On récolte ce qu'on sème. Il y a une autre similitude entre Jéroboam et Baïcha. Baïcha, vous vous rappelez qu'il avait conspiré contre Nadab. Il y a une autre similitude, mais cette fois une similitude qui montre à la fois la patience et la grâce de Dieu dans ces récits tellement sanglants. On voit quand même la patience et la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que les jugements annoncés sur la maison de Jéroboam et la maison de Baïcha ne se produiront pas de leur vivant. Leur maison sera anéantie après leur mort. Pourquoi ? Moi, je le comprends comme ça. C'est que après que Dieu leur ait annoncé ce jugement, ils avaient encore le temps de se repentir et de revenir. Et je citerai Ézéchiel 18, verset 27, qui dit ceci. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Alors, du fait que le jugement n'ait pas eu lieu du vivant de Jéroboam, ni du vivant de Baïcha, moi j'y vois la grâce de Dieu qui laisse le temps de se repentir pour que la personne revienne. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le conspirateur donc, qui a tué le fils de Baïcha, qui a tué Éla, il faudra que 7 jours, il s'agit de Zimri, il lui faudra que 7 jours au conspirateur pour prouver qu'il marche dans la même voie que Jéroboam, avec le plus court des règnes, 7 jours. Lui ne sera pas tué, mais il s'immolera lui-même lorsque Omri, le chef de l'armée, viendra l'assiéger à Tirza, verset 17-18. Omri, dont il a été choisi comme roi par le peuple, il règnera pendant 12 ans sur Israël, le royaume du Nord. Et il nous a dit quoi ? Verset 25, il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Alors la ville de Samarie, c'est donc lui qui en est à l'origine. On parle dans l'évangile, vous avez beaucoup il y a beaucoup de références à cette ville-là. Et la ville de Samarie, donc il bâtit la ville de Samarie, verset 24, Samarie deviendra le symbole de ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est un mélange de culte païen et du culte de l'Éternel. Il mélangeait les deux. Et c'est pour ça que les Juifs de Judée avaient tant de haine pour les Samaritains. Les Juifs de Judée. Le fils de Omri, ça sera quelqu'un de tristement célèbre. Vous avez vu de qui il s'agit. Alors ça sera pour après. Il s'agit de Akan. Et plusieurs chapitres vont être consacrés à Akan. L'homme récolte ce qu'il sème. Alors comment sortir de cette spirale ? Et il y a mon quatrième point. En rentrant dans la nouvelle alliance que Dieu nous offre pour avoir le meilleur père qui soit et le meilleur modèle à imiter. Parce que ces récits nous montrent que ces rois, ils ont été des bons rois ou des mauvais rois, fonction des modèles qu'ils ont choisi d'imiter. Pour le royaume de Juda, au sud, Roboam était un mauvais roi, même s'il était dans l'alliance davidique. Parce qu'il avait choisi d'imiter les nations païennes alentour, et il avait aussi choisi d'imiter son père et sa mère idolâtres. Abijam, fils de Roboam, a choisi d'imiter son père idolâtre. Tel père, tel fils. Alors, c'est une vérité, les parents sont des modèles pour leurs enfants. Vous êtes des modèles pour leurs enfants. Que ce soit des bons ou des mauvais parents. Et souvent, les parents imitent leurs enfants. Ils reproduisent parfois les mêmes caractères. Mais ce n'est pas une fatalité. Hasard en est la preuve. Il n'était pas sous la nouvelle alliance. Il a choisi d'avoir pour modèle David, qui était dans l'alliance avec Dieu. Il n'y a pas de fatalité, tout est une question de choix et de foi personnelle. Qui choisissons de suivre ? Qui choisissons d'imiter ? Alors, Asa a choisi d'imiter le bon modèle, David, et pourtant il y aura quand même des failles. On l'a vu, je l'ai vu. Pourquoi ? Parce que David n'était pas le parfait modèle. On se rappelle que David a commis adultère avec Bathsheba. Mais il s'en était repenti, et la Bible nous dit à plusieurs reprises qu'il avait un cœur entier pour Dieu. Il n'était pas parfait, mais il aimait Dieu. David, contrairement aux autres rois, n'a jamais adoré d'autres dieux que l'Éternel. Il n'est jamais tombé dans l'idolâtrie. Même s'il a commis des graves péchés. Mais il n'a jamais adoré d'autres dieux que l'Éternel. Et c'est pour cette raison, parce que David aimait Dieu, que Dieu a choisi de faire alliance avec lui, en lui promettant que le Messie serait issu de sa descendance. Alors vous avez remarqué, le royaume du Nord, les rois successifs, ils étaient de père en fils. La dynastie n'a pas été rompue. Preuve que l'alliance de Dieu était à l'œuvre. Ce qui n'est pas le cas au royaume du Nord. Ça n'a pas été beaucoup plus loin que père et fils, parce qu'après il y a une conspiration qui a cassé la dynastie. Mais dans le royaume du Sud, on voit la fidélité de Dieu qui a gardé son alliance avec David. Et effectivement, le Messie, bien des siècles après, le Messie sera effectivement de la descendance de David selon la promesse de Dieu, le Messie Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, il a imité parfaitement son Père, et pour cause, il a le meilleur Père qui soit, Dieu. Et voici ce qu'il dit Jésus lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jean 5, verset 19. Jésus était un parfait imitateur de son modèle, du parfait modèle, le Père. Et en cela, Jésus est devenu le parfait modèle pour nous tous. Lui qui a parfaitement imité son Père, il est devenu lui-même le parfait modèle pour nous tous, parce qu'il s'est fait serviteur. Jésus n'a pas revendiqué le pouvoir, comme les conspirateurs. Jésus est devenu le roi des rois, comment ? En donnant sa vie sur la croix, pour nous, et par sa résurrection. Il est le parfait modèle qui réunira tous les enfants de Dieu, plus de schisme. Tous ceux qui aiment le Seigneur. Tous les enfants de Dieu dispersés seront réunis. Vous vous rappelez, dans le culte idolâtre du royaume du Nord, il y avait des prostituées sacrées. Prostituées sacrées, ça veut dire mis à part pour les faux dieux. Ces prostituées, ils se prostituaient dans le culte idolâtre. Eh bien, les enfants de Dieu, nous sommes mis à part pour Dieu, cette fois. Dieu nous appelle à être saints, c'est-à-dire entièrement mis à part pour lui. Et comment Dieu nous met-il à part ? Lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous croyons en son Fils Jésus, qui s'est sacrifié pour nous sauver, et lorsque nous imitons Jésus, lui, le parfait modèle. Dieu nous appelle à avoir un cœur entier, tout entier pour lui, comme l'avait David. Et il nous appelle, la vie de chacun, à rentrer dans cette nouvelle alliance, celle avec son Fils Jésus. Rentrer dans cette nouvelle alliance ne signifie pas qu'on est devenu parfait du jour au lendemain, on n'a pas atteint la perfection, mais ça veut dire que nous aimons Dieu. Et nous devons tendre à la perfection. Et si nous aimons Dieu, nous voulons rester fidèles à son alliance, parce que lui, il est fidèle. Et toi, quel est le modèle que tu veux imiter et suivre ? Quel est ton modèle ? Ton modèle, c'est celui ou celle en qui tu places ta confiance. Nous sommes tous des imitateurs. Soit on a imité nos parents, soit on a imité le Seigneur Jésus, soit on a imité des mauvais modèles. Nous sommes tous des imitateurs. Mais nous sommes aussi, qu'on le veuille ou pas, tous des modèles, bons ou mauvais. Alors, autre question à poser, puisque nous sommes tous des modèles, quel modèle es-tu pour les autres ? Quel modèle es-tu pour les autres ? Eh bien, ça dépend du modèle que toi-même tu veux suivre. Pourquoi ? Eh bien, autre vérité, c'est que nous devenons comme des modèles que nous suivons. Nous devenons comme des modèles que nous suivons, que nous imitons. Bon ou mauvais. Et là, c'est très clair dans le texte. Il nous est dit que Baïcha, le roi du royaume du Nord, idolâtre, qui a conspiré contre Jéroboam, contre la maison de Jéroboam, Baïcha est devenu semblable à la maison de Jéroboam. Je relis 16, verset 7. Donc la fin du verset 7, je vais dans le verset 7. La parole de l'Éternel avait même été adressée par l'intermédiaire du prophète Jéhu, fils de Hanani, à Baécha et à sa maison, à cause de tout ce qu'il avait fait de mal aux yeux de l'Éternel pour l'hériter par l'œuvre de ses mains et pour devenir semblable à la maison de Jéroboam. Semblable. Et aussi parce qu'il avait frappé cette maison. Nous devenons comme les modèles que nous suivons. Baécha avait suivi comme modèle Jéroboam. Le texte nous dit qu'il est devenu semblable à la maison de Jéroboam. Parce qu'il a marché dans ses voies, verset 2. Résultat, puisqu'il est devenu comme Jéroboam, il a subi exactement le même jugement, lui et sa maison. Et la Bible nous dit, je vais terminer par là, que nous devenons comme ceux que nous aimons, comme ceux que nous adorons, celui que nous adorons, nous devenons comme eux. Et je vais lire le psaume 135, les versets 15 à 18. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Et verset 18. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Nous devenons comme les modèles que nous imitons et que nous suivons. Mais si Jésus est ton modèle, en qui tu places ta confiance, alors tu vas devenir comme lui, et c'est ce qu'il veut. Tu vas devenir à sa ressemblance, et c'est ce qu'il fait dans ta vie. Et alors, tu seras toi-même un bon modèle pour ta famille, pour tes enfants, pour ton conjoint, pour qu'eux-mêmes suivent Jésus à leur tour. Amen, je vais prier. Seigneur, merci encore de ces récits. C'est vrai que ça nous demande de nous y plonger, mais ô combien, Seigneur, nous y voyons combien tu es juste, Seigneur, et combien, Seigneur, tu es patient, et combien tu ne peux pas que le méchant périsse. Et aussi, ça nous montre toute ta justice, Seigneur, comment tu as en horreur l'idolâtrie. Alors, je te prie vraiment que tu sois le premier dans nos cœurs, Seigneur, que tu sois l'objet de notre amour, le plus grand amour, parce que toi, tu as montré le plus grand amour en offrant ta vie, en offrant ton Fils pour nous sauver de nos péchés. Que nous ayons un cœur pour toi, entier pour toi, tout entier pour toi, David, comme David l'avait, Seigneur. Et que, Seigneur, nous te laissions faire dans notre vie pour que tu deviennes vraiment notre modèle parfait, Jésus, et pour que nous, parce que tu veux nous amener à ta ressemblance. Que, Seigneur, on voit ta main dans notre vie, et merci parce qu'on voit aussi, eh bien, on peut voir chez les uns et les autres l'œuvre, ce que tu nous permets d'en voir, ce que tu fais dans la vie, dans notre vie, dans celle de nos frères et sœurs. Seigneur, sois glorifié, et nous te demandons cette grâce de nous, que nous te suivions, et que, Seigneur, que tu sois le premier dans notre cœur, Seigneur. Aide-nous à examiner notre vie, Seigneur, qu'est-ce que c'est qui fait de l'ombre, qui prend la place parfois de toi, toi qui veux de nous un cœur entier. Merci encore, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu n'en as pas fini avec chacun de nous, de ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen.